salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Game Lovers, la deuxième partie, car la première partie c'était déjà il y a deux semaines sur RCC et puis maintenant sur toutes les plateformes aussi de streaming audio. Vous le savez, vous avez vos habitudes hein, désormais, vous le savez, vous nous trouvez sur Facebook, sur Instagram, sur toutes les plateformes de streaming, où que vous voulez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, hein, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas nous écouter. Alors aujourd'hui, pour cette deuxième partie d'émission, on parle toujours de ces jeux qui nous ont foudroyés, qui nous ont laissé scotchés sur place, qui ont ébranlé toute une industrie et transformé le paysage vidéoludique à jamais. Sébastien nous a quittés, mais Jonathan... non,
mais... Les gens, ils se...
Merde. Sébastien nous a quittés pour cette deuxième partie d'émission, mais il est bien vivant. Hein. Je l'ai eu au téléphone pas plus tard qu'hier soir. Pour ceux qui s'en inquiètent, il se porte très bien et Jonathan se porte bien, mais il va vous le dire lui-même.
Oui, je vais vous le dire et c'est avec grand plaisir que mon coéquipier de séance, je félicite d'être venu là avec une parole d'entrée.
Tu parles du dauphin, celui qui n'a pas pris encore la parole.
Vive la technologie.
parce qu'il est là, on l'attendait, le super sub. Le Brandao de
l'histoire. Ole Gunnar.
Ole Gunnar, le meilleur super sub de l'histoire.
Exactement.
Ole Gunnar, il va nous faire gagner la Champions League sur cette deuxième partie d'émission. C'est François qui fait son retour aujourd'hui.
Oui, et ravi bien sûr de venir participer à Game Lovers. C'est un retour, ça fait plaisir d'être là, en bonne compagnie, avec des amis. Chers auditeurs, bonjour.
Bien. Il est suave comme ça sur la fin. Il sait conclure ses interventions, le François. On sent le métier.
On bricole.
Il bricolait, donc, pour cette deuxième partie d'émission, on a plein de jeux à aborder. La dernière fois, on vous avait parlé Resident Evil. On vous avait parlé de la saga des GTA et de comment l'open world avait transformé à jamais le paysage du jeu vidéo. On avait parlé des jeux de rôle comme Baldur's Gate, on avait parlé aussi un petit peu de Skyrim aussi et de tous les Elder Scrolls. Et j'en oublie un au passage. Oui, le papa des immersive sims, en quelque sorte, Half-Life évidemment.
Oui,
et
toutes ces grosses licences qui ont donné lieu
déjà à des épisodes.
Un tournant dans l'industrie.
Et qui ont marqué des tournants. Dans l'industrie. Alors, messieurs, en forme d'introduction, je vais vous lancer sur cette saga que vous connaissez tous. En fait, on va plutôt parler de trois sagas à la fois. Un triptyque, une triforce de jeux vidéo. Parce que, de mon point de vue...
La triforce, tu le copies.
Je glisse un petit indice. Parce que ces trois-là, ils sont peut-être symptomatiques d'une époque et sont trois licences qui se sont installées dans le temps. Et qui ont aussi su évoluer avec les nouvelles consoles, les nouvelles attentes des consommateurs. Je vais vous mettre un petit peu de musique pour qu'on se mette dans l'ambiance.
Ah, ça c'est intéressant ça.
La valeur de production augmente hein, d'épisode en épisode. Je crois qu'à la fois prochaine, vous aurez une émission en hologramme.
Oui.
Alors,
la Mélenchon avec des ensembles.
Messieurs, je suis persuadé que. C'est quelques petites notes.
Ça sent le pistolet.
Vous mettre en joie, n'est-ce pas ?
Ça sent le cep.
Ça sent le cep ?
Ouais.
Ça sent la forêt.
Ouais, exactement.
Ça sent la forêt, ça sent l'aventure.
Hyrule.
Ça sent Hyrule. Ça sent. Je sais pas bon, j'ai l'impression qu'il y a un jeu de moi à faire. Eh oui, vous l'avez reconnu, il s'agit bien évidemment de Zelda, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul dont on va parler. Puisqu'il est accompagné, ce Zelda. Évidemment, deux autres licences qui ont émergé au même moment que lui, à savoir Sonic, Mario. Il est en belle compagnie, n'est-ce pas ? C'est un joli podium, peut-être, de ces stars vidéo.
C'est peut-être
le vert, le bleu et le rouge.
C'est peut-être les premières sagas.
Du moins
sur console. Hein.
Ouais, sans doute. Qu'est-ce que vous en dites ? On passe la patate chaude. Allez, je commence.
Donc, je pense que souvent dans les consoles, il y avait un choix qui était, en tout cas à mon époque, c'était un choix. On était soit Nintendo, soit Sega.
Parce que financièrement, on pouvait pas faire les deux.
Ah non. Et puis il y avait pas trop d'alternatives puisque les autres étaient déjà dépassés. et qu'il a fallu attendre longtemps une troisième entité ou quoi que ce soit. Donc, étant chez Sega via la Mega Drive, c'était le premier achat, j'avais commencé à jouer avec la Master System un petit peu, j'ai eu les deux portatives, j'ai eu la Game Boy là. Moi c'est Sonic. C'est Sonic parce que tout simplement du fait de la console, parce qu'il a été vendu avec la console. Quand t'as acheté la Mega Drive,
les fameux bundles, hein, comme on les voit aujourd'hui, voilà,
exactement.
Une console vendue. Est-ce que c'est un jeu qui faisait vendre des machines, Sonic?
Alors, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, hein, parce que je devais avoir 11-12 ans. Hein, oui, Sonic 2, Sonic 3, les gens l'attendaient, parce qu'en plus, il y avait à chaque fois des petites révolutions. C'est-à-dire que tu pouvais jouer à deux, après tu pouvais jouer en 3D. Sonic a toujours été...
Tu as acheté la console parce qu'il y avait Sonic? Ou tu as connu Sonic après avoir acheté la console?
Non, j'ai acheté... C'était la console avec Sonic.
Ouais, mais est-ce que tu achètes la console parce que Sonic?
Non, j'achète la console parce que les copains, majoritairement, la Mega Drive.
Parce que je ne pense pas qu'à l'époque, on choisissait réellement une console par un jeu. Je crois que c'est venu un peu plus tard.
Peut-être c'est venu après un des jeux qui te permettent de vendre de...
J'ai acheté la console par rapport à... Par rapport à tes copains.
Oui, mais aussi par rapport aux capacités. Il y avait déjà cette guéguerre console. Telle machine est mieux que l'autre, ou inversement. Mais comme tu dis, François, le fait de pouvoir se prêter des jeux...
C'était surtout ça.
Ouais, bah oui.
C'était surtout ça. C'était les copains qui viennent et qui soient pas perturbés. Moi, j'étais perturbé quand j'ai basculé sur Super Nintendo, la manette.
Et oui, parce que on est à un moment où les manettes, elles sont pas du tout uniformisées parce qu'elles ont fini par se standardiser parce qu'on a cherché à demander même l'ergonomie la plus adaptée.
La Mega Drive était top au niveau ergonomique.
Mais il y avait quand même cette tranche des trois boutons qui a plus été revue depuis, je crois, non? C'est pas sur Mega Drive qu'on a les trois boutons alignés?
Oui, enfin, on n'avait pas les boutons au niveau de l'index et du majeur à l'époque.
Non, il n'y avait pas les gâchettes. Voilà. Mais en fait, c'est PlayStation 1.
C'était révolutionnaire, trois boutons. Tu avais une action supplémentaire à pouvoir réaliser dans le gameplay.
T'as même les turbos.
Oui, exact.
Et en fait, donc, du coup, tous les opus de Sonic amenaient toujours une petite nouveauté. C'est-à-dire que c'était... la course, quand Sonic 2 est arrivé, il y avait quelque chose en plus qui ne se passait pas sur les autres, jeux. Tu pouvais jouer en duo. Après, tu as pu jouer en 3D. Donc, il y avait toujours ce truc un petit peu qui emmenait. Après, moi, Mario.
Les innovations. Si demain, sur chacune de ces grandes licences qui se sont installées depuis maintenant, ça va faire quoi, ça fait 30 ans maintenant, peut-être même plus, hein. Années 80, je pense, fin des années
86, 80. J'ai la Mega Drive.
Donc, ouais, bah, vous imaginez, 35 ans pour certains d'entre eux. S'il y avait des grands marqueurs à ces licences-là, et si on pouvait essentialiser comme ça leur popularité, vous direz qu'elle vient d'où? Même si Sonic, c'est peut-être celui des trois qui s'est le plus essoufflé, même si aujourd'hui, il y a quand même des tentatives de relance avec des films, c'est même étonnant,
en ce qui me concerne, que Sonic puisse perdurer sans son fabricant de base.
Parce que les boomers sont aujourd'hui pères de famille.
Oui, mais
je comprends. Donc du coup, on va faire.
Ouais, je pense qu'il va être populaire aussi auprès des gamins. Pas trop de ça. Hein.
Le jeu Rayman,
c'est la séduction.
Rayman, qui avait une grosse cote de popularité à son époque, tu l'entends quasiment plus.
Disparu. C'est vrai que les grosses mascottes, il y en a peu en définitive qui ont réussi à être intemporelles. Au point qu'elle perdure pendant 30 ans. Il y en a qui sont très marqués par rapport à une époque, tu vois. Lara Croft, peut-être qu'aujourd'hui, elle a peut-être été considérée trop sexuée ou trop... Presque une femme trop masculine, enfin, comment dire.
Sans le côté pervers, entre guillemets, de la chose. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette négativité dans ce côté féminin, dans ce côté sexiste.
Est-ce que c'est les pas gens une vision de la femme ultra sexiste en définitive?
Non, quand elle pas est... dans le mauvais côté.
Ça devient
choses.
Une icône au moment.
Oui, mais c'était toujours vu comme un jeu vidéo. Et ça a été même sorti de dire, tiens, un jeu vidéo peut être populaire en ayant un personnage féminin à l'intérieur.
Alors, en partie, ça a été ça. Mais je pense que ça a été aussi... Les gamers ont leur icône, ont leur égérie ultra sexy, tu vois.
Parce que
j'ai vu une de Libé qui date des années, je pense, d'une sortie de Tomb Raider 2, je pense. Donc ça doit être toute fin des années 90, où t'as une Lara Croft en maillot de bain et tu vois, elle s'est présentée comme la première star virtuelle.
Dans les magazines,
ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on sait maintenant qui est la dernière personne à lire Libé.
C'est en faisant mes recherches sur l'épisode que je travaille, monsieur, que j'ai trouvé cette une des libérations.
Parce que je crois que même Libé cherchait à savoir
qui était son acteur.
Les personnages de jeux vidéo japonais dans les franchises de jeux de rôle,
ouais.
On a toujours un personnage féminin ou plusieurs qui sont
ultra sexualisés dans les licences japonaises.
Même certains, Soul Calibur. Soul Calibur, il y a
Dead or Alive. Il ne brille pas par le respect de la femme au Japon.
Ce que la franchise Tomb Raider ne faisait pas, n'allait pas au-delà, je pense.
Non, elle, ça restait une femme forte, aventurière, machin. Tu vois, on peut en dire plein de choses super positives, mais quand même, elle a été un sexe symbole aussi pour certains. Tu vois, une espèce de fantasme numérique.
Les petites statuettes et tout ça et tout. Mais si je peux juste, moi. Ayant possédé que la Mega Drive, hein. Alors j'avais la Game Boy. Mario, oui, mais c'était sur la Game Boy. Je voudrais quand même dissocier, moi, Mario et Sonic. D'ailleurs, en off, tu avais dit quelque chose de très intéressant l'apparition de Sonic. Sur l'apparition de Sonic. Pourquoi Sonic existe, au fait? C'est toi qui avais la...
C'est vraiment ça.
Mais moi, je dissocie quand même le monde de Link... Le monde de Zelda par rapport aux deux autres. Il y en a un qui est quand même beaucoup plus profond, il y en a un qui est quand même beaucoup plus lourd.
Zelda, c'est pas un platformer, ça c'est vrai. Non, mais je veux dire, c'est sûr qu'on est sur.
Je respecte beaucoup plus. Mais je pense que tous les gamers, si on doit faire un podium, ils mettront
Link,
Zelda en top.
Zelda, c'est un jeu d'aventure par excellence.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas voulu les mettre. Enfin, je vous posais pas proposé de les mettre.
J'ai compris
ensemble
ce que tu voulais dire.
Parce que on est sur trois jeux complètement.
Leur franchise, leur identité.
Oui, c'est-à-dire que très tôt, ils arrivent à imposer un caractère, une façon de faire le jeu vidéo. Parce que tu vois.
Et c'était ça la force de
Zelda.
Créer des systèmes de jeux qui n'existaient pas.
Qu'est-ce qui fait la popularité de Zelda, selon vous? Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais vous en pensez quoi? T'as été joueur de Zelda, toi, François?
J'en ai fait, mais
la profondeur du jeu.
C'est tout simplement.
C'est les temples.
Il y avait tout un univers, il y avait tout un. Tu passais du temps sur. Il y a deux autres, c'est vraiment de la manip.
Donc en un mot,
sur les deux autres, c'est de la manip. On est d'accord.
C'est du platformer, les deux autres. Hein, c'est manipuler la manette.
Et tu vois qu'aujourd'hui, il y a des
un pour Mario qui va nous accrocher pour son côté plateforme. Sonic qui va peut-être en faire un peu moins que Mario sur le côté plateforme et pouvoir et machin, mais qui va jouer davantage sur sa vitesse et le côté presque un peu bad boy de Sonic. Le côté alors certes ça reste un hérisson, enfin s'il y a des bad boys chez les hérissons, mais ultra speed.
Est-ce que on peut définir le Sonic en comparaison par rapport à Mario, parce qu'on peut pas comparer sur Zelda. Est-ce que le Sonic c'est pas le Mario un peu plus viril?
C'est le bad boy,
c'est le
Mario cool de chez Sega, non?
Mais on le disait tout à l'heure. Ça montrait la puissance de la technologie du support, ce qu'était capable de faire Mega Drive et ce qu'était capable de faire Nintendo. Enfin,
oui, Sega et Nintendo.
Ça a été dire voilà, on crée une mascotte, c'est Sonic. Et regardez ce que le jeu, parce que c'est pas le tout de créer une mascotte, hein, c'est de faire un jeu qui puisse
Sonic
montrer la puissance de la machine.
Hein. La technologie, elle assume.
Et voilà.
Mais tu vois, quand on parle de, enfin, quand on choisit d'intituler cette émission Coup de foudre. C'est que pour le coup, c'est vraiment le coup de fouet, tu vois, Sonic, mais c'est qu'au moment où il arrive.
Et c'est pour ça qu'il faut vraiment dissocier, pour moi, hein, je pense, Mario et Sonic de Zelda. Pourquoi? Parce qu'on voit aujourd'hui, il y a des concours, tu peux aller sur des sites et voir, je finis Mario 3 en tant de temps.
Je suis à speedrunner.
Voilà, les speedrunners. Je suis pas sûr que Zelda, les gens.
Alors, Breath of the Wild, ça a été speedrunné en un rien de temps.
Hein. Oui, mais c'est.
Tu vis pas l'expérience, c'est pas un jeu qui s'y prête. Et au fait, on est sur des jeux de manip, et on est sur un
truc pour ça.
Moi, j'ai beaucoup plus de, à la limite, sur un opus comme Zelda, j'ai beaucoup plus de respect, je vais prendre mon temps. Sur un Sonic, je vais me défouler. C'est familial. Sonic, Mario, c'est familial.
Ah oui, tu réfléchis pas.
Mais dans cette capacité qu'ils ont eu tous les trois, alors. Je comprends hein, cette idée que Zelda on le décroche un peu parce qu'évidemment il y a un souffle de l'aventure qui existe pas ou peu chez les autres. Même si Mario, au fil des épisodes,
ils en ont créé.
On sort des déclinaisons de Mario, des variations sur le thème de Mario que sont les Mario Golf, les Mario Tennis, les Mario Kart, etc. Mm-hmm. Ou les Mario Soccer. Mario dans sa on va dire sa comment on va dire ça, sa trajectoire des jeux 3D oui, classiques.
Oui, son identité propre.
Ce que sont les jeux de plateforme Mario, ils ont insufflé petit à petit davantage d'aventures avec cette idée de on va dans les mondes, on va dans des tableaux différents, on va à la récolte de tant ou tant d'objets. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est peut-être pas aussi profond que Zelda sur ce point-là.
On peut pas les comparer, ces jeux-là.
Est-ce qu'en revanche, on peut pas les comparer sur un point qui est leur capacité à être toujours dans leur temps, dans leur époque? À faire leur propre révolution interne pour toujours coller à l'attente.
Tu remercieras son créateur. Et, alors, j'ai plus le nom exact. C'est un nom japonais, mais.
Miyamoto, c'est pas.
Peut-être. Parce que le créateur de Mario, corrigez-moi si je me trompe, c'est le créateur de Zelda.
Moi, je pense que c'est le même. Je dirais Miyamoto, moi, pour la plupart des jeux.
Ah oui, Nintendo, Miyamoto.
Il me semble.
Donc, tu as raison, c'est ça. Et il crée les deux jeux. Donc, comme c'est lui qui crée Mario, il crée Zelda, il va pas créer un jeu similaire, quoi. Donc, il va créer quelque chose de différent et il crée un personnage et il crée une histoire. Et le fait qu'une saga perdure, c'est que ton histoire a une suite qui s'y accroche. Je veux dire, il y a une cohérence dans.
Mais ils ont jamais peur, tu vois. Bien sûr, à chaque fois, il y a une histoire différente pour chaque aventure de Zelda et tout ça. Bien sûr, ils vont pas refaire la même chose. Mais ils ont cette capacité quand même à se regarder eux-mêmes, à regarder le paysage vidéoludique autour d'eux et de dire, bon, on va pas attendre que les autres changent l'open world. C'est nous qui allons faire notre nouvelle formule.
Avec des réussites plus ou moins
diverses, oui.
Mais aussi ce qu'il y a.
Mais ils innovent à chaque fois.
Mais Nintendo, ils ont lâché la course à la puissance. Après la
c'est
Nintendo.
C'est le gameplay, quoi. Tu vois,
voilà, eux, ils innovent sur les consoles, donc sur le hardware, et ils y intègrent leur licence forte pour intégrer ces nouveaux systèmes de jeu.
Et pour faire un appel d'air et pour emmener les gens sur la console.
Et ils sont toujours restés, François, tu le disais tout à l'heure, dans l'esprit famille. C'est-à-dire que l'adulte et l'enfant peuvent y jouer et y partager un énorme plaisir.
Et c'est fort quand même, tu vois.
Mais c'est pour
fort
ça
de réussir à chaque fois.
C'est ce que Sega n'a pas réussi à faire et Sega s'est arrêté.
Une mécanique de gameplay, une nouvelle proposition d'univers, même si globalement on reste à chaque fois dans les mêmes, dans les mêmes intentions. À chaque fois, ils collent à la génération. Ouais. Tu vois, ils inventent la Switch, ils ont le gameplay qui va bien avec les gamins du 21e siècle.
Corrigez-moi si je me trompe, c'est mais fou, quoi. J'ai l'impression que ils ont été en difficulté avec la Mega Drive. Nintendo a été un peu en difficulté avec la Mega Drive parce que
à l'époque de la Mega Drive,
je pense qu'ils se sentent en difficulté. Ah, ils ont peut-être eu peur avec la Game Gear qui était couleur, contrairement à la Game Boy, qui était puissante, sauf qu'il n'y avait pas de jeu, sauf qu'il fallait rester accroché branché au mur constamment, c'était une console portable.
Je sais pas si j'aime bien ce côté un peu la console qui est aussi le jouet.
Sega,
ils l'ont vachement assumé.
Sega a montré leur potentiel technologique supérieur à Nintendo. Et il y a eu une comparaison qui a été faite sur un jeu, ça avait montré que Nintendo était au-dessus de Sega en termes de capacité. Hein. C'était sur le jeu Aladdin, parce qu'il était sorti sur deux plateformes.
Ah ouais, et il tournait mieux sur.
Et il tournait mieux sur Nintendo.
Ah ouais.
Donc, Sega a toujours été dans cette course à la technologie, et d'ailleurs la Game Gear le prouve, puisque c'était une console supérieure à la Game Boy, première console couleur portable, mais énergivore à n'en plus finir.
Ah oui, parce qu'on en avait déjà parlé au cours de la première émission, c'était un
gros Nintendo a toujours fait des choix cohérents en termes d'économie. Et se sont jamais trompés. Juste sur la Wii, je crois que
ça a été
un échec commercial, mais derrière.
Non, la Wii, c'est un carton monstrueux.
Alors la Wii U, et ils ont rebondi.
Oui, parce que la Wii U, ils l'ont vendue à la fois. La Wii U, ils ont voulu la vendre à la fois comme une tablette et comme une console. Les gens n'ont pas bien compris que la tablette était à la fois la manette et la console.
Enfin, Game Boy Color, tu te rappelles?
Oui, Game Boy Color.
Mais avec
Game Boy Advance, Game Boy DS, 3DS.
Eh ben, ils en ont fait. Ça a tout été des succès.
Ils sont beaucoup trop.
Mais toujours avec la licence. Avec la franchise pour emmener à chaque fois les gens à la console.
Mais c'est ça qui est fort.
C'est pas le contraire.
À chaque nouvelle console, ils arrivent à sortir une même variation.
Sega est obligé de créer une entité pour contrer Mario. Mais Sega avait des jeux, avait des opérateurs, avait des trucs qui leur fournissaient des jeux. Nintendo, quand ils sortaient du prisme, ça y est, on a arrêté le cycle. Super Nintendo, on a arrêté le cycle. On passe à autre chose via les franchises.
Oui, les franchises continuer dans
qui emmène la nouvelle console. Ce que je pense, n'a pas réussi Sega, au fait, finalement.
Bon, un épisode phare, messieurs, au milieu de ces trois franchises. Si vous ne deviez en retenir qu'un de ces trois, Zelda, Mario, Sonic.
Après, ça reste selon l'affect pour lequel on est.
Celui qui a été le plus marquant pour vous de chacune de ces trois sagas.
Moi, personnellement, c'est les années fac. C'est une déclinaison d'un des trois. C'est Mario Kart, Nintendo 64. C'est les soirées fac. C'est les soirées. C'était
soit c'est le Mario qui t'a marqué
soit
le plus.
PES. Ah oui, Mario Kart.
T'as pas été marqué par Zelda.
Mario Kart. Ah non, pas du tout. Moi, le jeu, ça a toujours été considéré. C'est soit très solitaire, soit en partage. Et en partage, je pense que c'est l'un des jeux où j'ai passé le plus de temps.
Toi, John, sur ces trois.
Moi, j'irais Zelda parce qu'il y a une.
Lequel? Vas-y, puis dans tes souvenirs.
Wind Waker.
Retourne en enfance. Wind Waker.
Ouais.
Ah,
cool. Parce que.
Pas le plus apprécié par les fans.
Non.
Pas forcément le plus révolutionnaire.
Alors, peut-être. Non. Je me trompe.
Ah, mais si, quand même.
Je me trompe.
Majora's.
Non, parce... non, je l'ai pas fait. Il paraît que c'était le meilleur.
Jamais, je n'en ai pas.
Non,
le
Link Awakening.
Link's Awakening.
Il y a eu un remake sur Switch.
Oui.
Et je l'ai fait avec mon fils.
Celui avec le poisson rêve.
Ouais.
C'est le seul que j'ai
fait. Et il est génial. Et pourquoi je dis ça? Parce que bon, il y a ce partage qu'on fait avec des générations différentes, mais il y a un univers musical,
oui.
Une sonorité qui.
Oui, chaque instrument à aller chercher dans chaque donjon, c'est génial.
Voilà, c'est fort appréciable. On s'intègre un peu plus dans le côté aventure, on va dire.
Tu m'as grillé ma cartouche. Je voulais dire Link's Awakening aussi, mais je dirais comme toi.
Consensus, en fait.
Même si Mario 64 peut-être aussi quand même.
Mario 64, ça a été le jeu de la Nintendo 64 avec James Bond.
Avec GoldenEye.
Voilà.
Dont on ne va pas parler, non. Car il n'a pas été le papa d'une saga, quoi qu'on ait pu en penser à ce moment-là. Ça aurait pu. Et puis en fait,
ça aurait même dû vu le succès.
Ça aurait dû même. Mais il est le seul à exister dans la galaxie des 007. Il n'y a pas eu vraiment d'avant, pas eu d'après.
Non. Enfin,
il n'y a jamais eu un succès commercial comparable à ce qui s'est passé avec
GoldenEye. Un des rares jeux sous licence film à avoir cartonné.
À avoir super, super bien marché. C'est vrai, je ne sais plus si on en avait parlé pendant l'émission, ça doit être la numéro 4 sur le cinéma. Mais c'est vrai qu'on aurait pu parler de GoldenEye, qui était à la fois un bon film et un bon jeu.
Tout à fait.
On va parler maintenant, on va passer à une autre saga. Alors, elle est un petit peu à part. Mais je vais rester quand même dans le giron de. Non, on va commencer par celle-ci. J'ai fait un triptyque encore, un deuxième triptyque. C'est le passage à la simulation grand public pour trois genres très différents. Grand Turismo. J'aurais peut-être pu y rajouter un jeu de tennis, mais bon, Grand Turismo, on est quand même au 7e épisode. Virtua Tennis, on a eu quelques-uns, et c'est vrai que la simulation de tennis, on peut la rajouter, pourquoi pas. J'ai mis Grand Turismo, j'ai mis PES. Bon, ou ISS, mais PES. J'ai pas mis FIFA parce que la simulation, il y arrive plus tard, mais c'est vrai que ça reste quand même une franchise à succès. Mais parlez-moi, messieurs, un peu de tous ces jeux de sport automobile ou de simulation. Vous pouvez même y rajouter les simulations de guerre type Call of Duty, comment on les appelle aussi, Battlefield. Je suis pas très FPS pour ce qui me concerne, mais vous, est-ce que parmi ces grandes sagas de la simulation, il y a encore une fois des épisodes, des intentions qui vous ont marqué, des choses dont vous vous rappelez de votre expérience de joueur. Est-ce que vous avez le souvenir que...
Après, je ne sais pas si l'impact...
Grand Turismo, ça vous a secoué...
Oui, mais est-ce que l'impact de ces sagas-là sur la franchise sportive, est-ce qu'elle apporte autant que ce qu'a pu apporter des jeux que l'on a cités précédemment?
Il y a quand même des amateurs du jeu vidéo en façon, enfin de façon plus récréative et plus sportive, et il y a des gens qui y trouvent leur compte.
Ah moi, je, alors.
Tu vois, moi, PES, c'est
regarde,
un des jeux qui m'a le plus marqué.
Je suis sur un réseau social, hein. Facebook.
Oui.
Je suis dans mes souvenirs.
C'est en direct. Tu veux pas participer à l'émission convenablement au lieu de scroller.
Souvenir du 19 octobre 2011.
2011.
Le plus grand transfert de l'année, le mien, je passe de PES à FIFA. Donc j'ai tenu, tandis que la bascule de FIFA, ça se passe, je pense, FIFA passe devant PES 3 ou 4 ans avant.
C'est
j'ai tenu à bloc le plus longtemps possible.
Non, que ce genre, comme ça doit être total.
PES, c'était là encore. Hein, on est sur les années fac, on est sur un partage, c'est-à-dire qu'on allait chez les uns, chez les autres, c'était PES, c'était les concours, c'était les tournois.
En soi, la grande question, pourquoi? Comment il parvient à tous nous attraper ce jeu-là?
Alors, moi,
parce que les deux premiers PES, après, ça s'installe. Et jusqu'au 5.
ISS Pro avant.
Et jusqu'au 5, c'est sûr. Non, mais pas, quand même pas autant.
Pas mal. Parce que tu n'as pas de concurrent.
ISS Pro annoncé. Oui, tu avais déjà FIFA. FIFA, ça commence à FIFA 80, 92. Non, hein.
Celui qui pose la franchise, c'est quand même PES, enfin, de mon point de vue. Mais oui, tu as raison.
Le FIFA, précurseur, non, c'est non, avant, c'est FIFA 92. Avec David Ginola, il me semble. C'était lui.
Mais non, mais c'est, non. Chez Konami.
Ah, chez Konami. Oui, chez Konami, c'est ISS.
Oui, pardon, dans les jeux de sport.
C'est ISS Winning Eleven, si on préfère.
Winning Eleven.
C'est ISS, ISS Pro, ISS Deluxe. Et honnêtement.
C'est pas PES qui te marque le plus sur le 1 ou le 2 ?
ISS, ISS emmène une autre vision, c'est-à-dire qu'on sort du prisme de ce qui était fait avant. C'est-à-dire que vraiment, les joueurs sont plus grands, les coups francs sont mieux faits, les corners sont mieux faits. On est sur quelque chose. Une nouvelle expérience par rapport aux simulations qui étaient proposées.
C'était pas dans PES où on pouvait modéliser un peu son visage, se faire un personnage que tu intégrais dans une équipe.
Alors ça, je m'en souviens plus. Je crois que tu pouvais déjà changer le nom, mais tu pouvais le faire sur Striker, sur Mega Drive et tout déjà. Mais c'était vraiment pas terrible.
Je pense que j'ai passé le plus. C'est le jeu dans lequel j'ai passé le plus de temps dans le mode modifié.
Mais pour PES,
faire les visages, les personnages, les mains.
PES, rien que les licences, rien que changer les noms, rien que changer les noms.
Changer les noms.
Mais alors il y avait des gens qui avaient des patchs.
Mon frère m'a vu passer des heures et des heures en me disant mais qu'est-ce que tu.
Il y avait des patchs.
Là, cette envie, ce besoin de fidélité pour que ça ressemble le plus à la réalité.
Tu t'en souviens de ça? J'avais toujours, moi, j'avais un ami, il avait sa clé.
Oui. J'étais de ses amis. C'était chez moi.
J'ai téléchargé le patch. Et là, tu mettais, et t'avais tout avec les.
Tous les maillots.
Avec j'essayais de reproduire même le logo du club pour lequel je jouais, parce que le logo, il était inventé.
Et non, PES, véritablement, moi, ça a été, c'était un, je pense que entre 2000 et 2006, tout le monde joue à PES.
Mais.
Il n'y a personne qui en échappe.
Je pose la question à nouveau. C'est pour des raisons de réalisme. Pour des raisons de graphisme, parce qu'on grandit et qu'à un moment donné on cherche quelque chose qui est plus fidèle à ce que l'on voit à la télé. Pourquoi on se détourne un peu?
Rally, je pense pas, moi c'était le bon mélange entre.
T'es quand même plus joli, je trouve, dans ces premières années que FIFA.
C'était le bon mélange entre l'arcade et la simulation. C'est-à-dire, tu pouvais quand même faire des grosses frappes de forain à 30 mètres. Ça pouvait transpercer les filets. Tu avais des joueurs qui étaient intouchables, les Adriano, les Ronaldo. Ah, tu savais que tu envoyais une balle dans la surface, même s'il y avait 8 défenseurs autour, il la prenait.
On parlait de l'Inter Milan,
l'Inter Milan avec les fameux tireurs de coup franc qui étaient Recoba, Figo, Adriano.
Voilà.
Mais honnêtement, je pense que c'était un bon compromis entre le côté foufou, on joue entre les amis et tout, et ça peut ramener à l'expérience arcade des années 80 et quelque chose qui se rapprochait plus ou moins de la réalité.
On avec quand même sur une super expérience.
Et puis beau, partage, et puis beau, très beau.
Oui, il y avait
par rapport à ce qui se faisait à l'époque.
Et puis encore une forme de réalisme par rapport à la crédibilité de ce que nous on voyait.
Parce que le jeu ultra réaliste en football, c'était quand même le kick-off. Hein.
Ah, je sais pas.
Alors kick-off, c'est simple, le ballon il collait pas au pied. C'est-à-dire, tu montais avec le ballon, tu tournais à droite, le ballon continuait toujours d'aller tout droit.
Ah oui.
Il fallait
pas jouable pour dessous.
Non, c'est injouable. Mais si tu arrives à maîtriser ça, c'était la réelle simulation de football. Mais c'était invendable parce que trop compliqué.
Oui.
Et sortait le cadre du ludique, quoi.
Si on l'a pas intégré là, parmi les jeux.
Et d'ailleurs.
On va parler, c'est qu'il s'y est pas imposé.
Ce qui a fait la réussite de FIFA, c'est que à chaque PES, tu sentais une amélioration jusqu'au 6.
Ouais. Ouais, pour moi, on plafonne du côté du 6.
Et là où ils ont commencé à perdre de la vitesse, c'est quand il n'y a plus ce truc, j'achète PES, ça va être mieux, ouais, ça va être encore mieux.
Ouais.
Ce qui n'est pas le cas, c'est que FIFA est passé devant, et je pense que FIFA est passé devant par rapport aux licences, hein, tout simplement, il y a eu une usure. Je pense que Konami s'est reposé sur ses lauriers. Et ressens pas ça, moi qui achète FIFA depuis 2011. Je ressens pas une amélioration quand je mets. Là, cette année, oui. Cette année, oui. Hein. C'est la première fois. C'est la première fois cette année que je ressens une réelle évolution. Mais en fait, c'est des évolutions qui me ramènent à des trucs qu'on pouvait percevoir sur PES.
Ah ouais, bah oui.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, le changement de coup franc.
FIFA a réussi à créer des systèmes de jeu qui.
Il avait aussi un PES, il avait la Ligue des Masters qu'il avait inventé, qui était génial.
Mais voilà, tu ça c'est resté là sur l'évolution. Ce qu'a réussi à faire, Electronic Arts a continué à faire ses évolutions, notamment en y intégrant ces microtransactions sur le mode fut.
Ça
a marché de folie.
Et puis il faudra même.
Et Gran Turismo, messieurs, non ?
Il faudra même communiquer là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut lutter.
Véritablement.
Il faudra même une communication sur la radio en dehors de Game Lovers.
Nous et nos 45 auditeurs, on prend position, tu vois.
Pour alerter. Mais alors, je te ferai dire que RCC prend de grosses positions, puisqu'il y aura une émission spéciale Coupe du Monde, et je ne prononcerai, j'ai pris une décision très lourde de sens, ne prononcerai plus jamais le nom de l'organisateur de la Coupe du Monde 2022.
Le nom du pays.
Et là, il tremble, l'émir tremble.
Non, là, il y a des prises de position qui sont vraiment...
RCC.
Gran Turismo, messieurs, allez, on passe rapidement. Gran Turismo, qu'est-ce qu'on en dit ? Moi, j'ai d'excellents souvenirs avec mon père.
Le 1.
Mon père, c'est un jeu qui a réussi à passionner mon père, qui avait déjà, une quarantaine d'années, je pense.
Le ring.
Et
il jouait au jeu de...
Il a joué à Gran Turismo.
Non.
Le principe de les permis, acheter les voitures.
Avant que Gran Turismo sorte, il y a des jeux automobiles.
Il n'a jamais touché. Non. Mais tu vois, Outrun...
J'ai joué à un jeu de simulation de Formule 1 sur PC. J'ai jamais rien compris.
Parce que Monaco GP, c'était pas ça.
C'était, il fallait rentrer, travailler ton aérodynamisme. Je partais avec toujours 10 litres d'essence, mais je comprenais pas, j'y arrivais pas. Trop compliqué, j'ai abandonné. Et en plus, tu joues au clavier, je veux dire.
Non, on n'avait pas d'ordinateur à la maison, donc non, d'accord. On était plutôt joueur console. Et je pense que c'est un des premiers qui l'accroche vraiment parce que. Avec l'arrivée de la PlayStation.
On a la même recette que PES. On a une partie. Les deux tiers du jeu simulation, notamment avec ce système de permis de conduire.
Génial, du jamais vu.
Mais
oui, qui donne accès.
Tu avais le tiers qui respectait d'arcade, parce que le gros jeu sur PlayStation avant Gran Turismo, c'était Ridge Racer.
C'était Ridge Racer, ouais.
Ridge Racer, ça, tu avais un plaisir.
J'ai eu des tentatives à chaque fois. Demolition Derby.
Oui.
J'ai eu des tentatives. Demolition Derby. Je me rappelle même
Road Rush. Sur
les motos, tu avais Road Rush.
Comment te le vendait Gran Turismo? Il y avait 200, c'était quoi? 200 véhicules ou 500 véhicules?
Ouais, toutes les marques.
Tu avais une collectionnite. Et puis là, il n'y avait pas de problème de licence. Tout était,
les noms, la vraie voiture. C'est toutes des vraies voitures.
Et le seul souci.
Est-ce qu'on n'est pas dans le fantasme, quand même, du. Tu sais, le père de famille. Tu sais, ce truc de...
Je vais prendre la lance, je vais faire la montée de grande pique.
Moi, ma bagnole... Il y a un peu ce côté-là, c'est vachement masculin. Ça réussit, elle est...
Tu retrouves sur des voitures de légende que tu te dis, tiens, puisque c'était pas la même sonorité, on avait des bruits différents.
Moi, c'est en Gran Turismo, mon père ne conduira jamais une DB7, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, il y a cette part de rêve aussi de se dire...
La Corvette Stingray.
Ouais, je vais avoir en main la Viper. Tu vois, Dodge Viper.
Ouais. Tu avais déjà un souci qui est encore décrié pour le 7. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de dégâts de collision sur les voitures. Il ne faut pas les abîmer.
Oui, t'as raison.
Par rapport aux autres simulations derrière.
Sur ce point-là de la simulation, ça manque.
Mais c'est le seul défaut du jeu.
Mais cela dit, c'est une part de rêve aussi qu'on s'achète les premières fois qu'on joue à Gran Turismo.
Clairement. De se dire, je vais pouvoir
conduire telle ou telle voiture que je me paierai probablement jamais.
Et puis on peut les améliorer. Il y avait ce système de.
Et il y avait les améliorations progressives. Voilà,
tu changeais le turbo, tu changeais l'aérodynamisme.
Meilleur opus et vous décrochez auquel sur.
Ah, moi, c'est vraiment le premier le premier c'est tellement magique. Si tu te retrouves avec un panel de voitures. T'as jamais eu un jeu avec autant de choix.
Mon cœur balance.
Sans commune mesure.
Je crois que le 3.
Après, il y avait une déclinaison sportive qui ils se sont un peu perdus, à mon avis.
Vous regarderez le 3 à l'occasion, qui est sorti sur PS2. Je trouve qu'il est encore très très beau aujourd'hui pour un jeu PS2.
Le dernier, le 7, évidemment.
Je me rappelle que dans les magazines, ils te montraient des photos, tu sais, avant qu'ils sortent le jeu, il y avait des previews, des petites images comme ça. Ils montraient que la simulation était tellement poussée dans le 3 qu'au freinage, on voyait les disques de frein chauffer et devenir rouges. Sur certaines voitures, quand ça correspondait au rapport
même si vitesse, le permis mais le plus dur
fou.
De
c'était fou quand
de
même.
Tous les jeux vidéo reste celui de Driver
je n'ai
que
pas
tu
fait
passais dans le parking.
Si j'ai fait driver, je me rappelle.
Impossible à avoir. Fait driver, c'est GTA, sauf que tu peux pas sortir de ta voiture. Ça a été ça le gros défaut de driver.
Et voilà.
Mais qu'est-ce que vous voulez pour driver? Grand Turismo, là où ça a marqué sa légende, hein, entre guillemets, c'était que les pilotes automobiles s'entraînaient sur Grand Turismo. Notamment Sébastien Loeb, qui s'est entraîné sur le circuit des 24 heures du Mans, puisqu'il sortait du rallye, pour commencer à intégrer la physique du circuit et s'entraîner sur
cette dimension. C'est un bon moyen de moins avoir comme ça au moins les virages en tête.
Je crois que c'était sur Grand Turismo 3, je sais plus.
C'est possible, je sais pas.
Et vous remarquerez qu'il n'y a jamais eu de jeu vidéo sur la randonnée ou sur le trail.
Non, mais tu as eu des jeux vidéo sur le tracteur.
Attends, il y a le Tour de France. Je te rappelle qu'il y a le Tour de France.
Tu connais Gotim. Tu sais que tu fais un sport de merde à partir du moment où t'as pas un jeu qui sort où tout le monde va se ruer de sa jeu vidéo.
Pourquoi il y a aucun éditeur de jeux vidéo qui a réussi à faire un jeu sur le rugby de manière qui...
Parce qu'il y a
47 règles.
Le seul vrai, c'est John Lomu. Le seul vrai, c'est John Alomou, qui était très sympa, mais en mode amis, si vous me permettez,
on parle pas de nos coups de cœur personnels de jeux qui sont tombés aux oubliettes de l'histoire. Aujourd'hui, on parle des monuments.
Les monuments. Grand Turismo. Hein.
Ouais. Allez, on va voir si c'est des monuments dans votre cœur. C'est pas une vraie saga, mais c'est une trilogie qu'on peut les mettre les uns derrière les autres et ça forme une sorte de cohérence. La trilogie des Ueda, en avez-vous fait un? Ico, Shadow of the Colossus ou The Last Guardian?
Ico,
t'as fait? Qu'est-ce que t'en as pensé?
Ça sortait de...
T'as pas été sensible à ça?
Si? Ah oui. Ouais. Moi, je suis quelqu'un d'émotif à la base. Donc, j'ai réussi à retrouver...
Un petit cœur en chocolat. Je pensais pas, tu vois.
Non.
Il est très fleurant.
C'est d'accord.
C'est ce côté-là. Il s'est fait, mais dis-moi, c'est qui la légion?
Son petit cœur tout mou. C'est qu'un cœur qui bâche sous cette carapace.
Ben, je vous signale que dans tous les gens peut choisir le bon côté ou le mauvais côté, j'ai du mal à choisir le mauvais côté.
Quand il s'agit de choisir un homme ou une femme, je choisis toujours la
femme. Tandis que moi, tu vois...
Tu choisis toujours le bon côté?
Ouais, j'ai du mal à basculer.
Tu n'as pas fait la fin du Seigneur de la Flamme Exaltée, donc dans Elden Ring. On en parle tout à l'heure, c'est promis, chers auditeurs, on en parle tout à l'heure.
Non, juste petite parenthèse, je l'ai fait parce que je me suis trompé.
Ah, pas parce que t'es incompris.
Non, j'ai dit, tiens, je vais faire cette option de
la flamme exaltée.
Voilà, et tu donnes, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais je me suis trompé. Donc, j'ai dû le recommencer pour dire, ben non, je vais pas rester
dedans. Comment c'est vieux, mais sauvegarde dans le cloud.
J'ai fait un N+. Plus.
Hein?
En New Game Plus.
C'est mon problème, moi.
Donc, pardon, Ico.
Oui, Ico. Après, j'ai pas réussi à accrocher sur, alors Shadow, j'ai pas joué.
J'ai fait Shadow, c'est le seul des trois. Non, j'avais commencé The Last Guardian aussi.
Et The Last Guardian, j'ai pas accroché puisqu'il est sur le catalogue de la PlayStation.
Il est sur le catalogue PS5, ouais. Ouais. Enfin, si t'as une PS5, t'as accès à quelque chose.
Je vais essayer de le refaire, mais c'est compliqué.
Alors, il brille pas par leur gameplay, tous.
Non, gameplay, c'est très dur.
La caméra,
c'est une horreur.
Tout le temps, c'est une horreur.
C'est pour ça que j'ai pas
accroché. Très difficile de parvenir à faire ce que vous voulez faire.
Je trouve qu'il est quand même difficile, d'avoir une intégration psychologique avec un jeu vidéo si le gameplay n'est pas maîtrisé.
Non, c'est vrai que c'est difficile. On a l'impression des fois de se battre un peu contre le jeu, ça c'est assez
pénible. Et on sort du scénario.
Ça, j'en conviens. Mais cela dit, si ça peut donner des idées à certains pour mettre, pourquoi pas, leurs enfants face à ces jeux-là, alors Ico, c'est peut-être plus difficile aujourd'hui, alors que c'est peut-être le meilleur, mais si vous avez l'occasion de leur faire faire le remake HD, par exemple, de Shadow of the Colossus, c'est très beau parce que c'est un très grand univers dépouillé de quasiment ce qu'on appelle un boss rush. En fait, on a 8 colosses à aller affronter,
ça interroge sur le fait de tuer
ou non. Ouais. Le monde est un grand vide qu'il s'agit d'explorer, qui est très beau mais qui est dépouillé d'absolument tout. Donc on passe son temps à balader, à observer les panoramas, à traverser des endroits complètement vides, éthérés, et effectivement on n'a qu'une seule tâche qui nous est confiée, celle d'abattre un certain nombre de colosses. Alors, puis aussi le côté monumental, évidemment, qui était très marquant et qui nous jetait comme ça aussi dans un monde où on se sentait faible,
C'est pour ça qu'il
il y avait pas
qu'il était marquant.
Non, mais voilà, mais il était très beau.
Très bonne expérience.
Son souffle, la façon dont il nous faisait ressentir le vide aussi, c'est beau quand le jeu vidéo arrive à faire ça. Il y a une série dont j'aimerais parler, parce qu'il y en a encore. On n'est pas certain de pouvoir tout aborder, messieurs, dames. On va peut-être vous parler de The Last of Us un petit peu, Uncharted, parce que il y en a plein, il y en a trop, hein, pour vous dire la vérité. Il y aurait des God of War, il y aurait des Pokémon, mais peut-être que tout, enfin, en tout cas pour Pokémon, tout a peut-être été dit. J'aimerais qu'on parle au moins, avant de se laisser, pourquoi pas, mais qu'on ait le temps d'évoquer cette série qui, à mon sens, est la série marquante des années 2010. Si on va parler des derniers jeux vidéo qui ont le plus influencé le média dans sa globalité, la série des Dark Souls, son prédécesseur Demon's Souls, et les trois variations que sont Sekiro, Bloodborne, Sekiro et Elden Ring.
Je passe mon tour.
François est scotché.
Je resterai sur Last of Us.
Non, t'en as fait. Sérieux, t'as fait aucun.
Aucun.
Mais non.
Aucun.
Tu crains le gameplay? Tu crains la difficulté?
Non, pas du tout. Non, ça me parle pas. Sincèrement, ça me parle pas.
Il faut dire qu'il faut y mettre pour chacun d'entre eux, alors au minimum, une cinquantaine d'heures.
Il y a un investissement qui peut rébuter de base. Hein.
Moi, sur les jeux.
Tu nous expliques un peu ce dont il s'agit, John? Allez, la licence en général. Les grands marqueurs de la série des Souls. Alors on reprend Demon's Souls, les trois Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring. Qu'est-ce qu'ils ont en commun?
Alors il faut savoir
à quel genre de public on s'adresse.
À une certaine époque, quand Internet n'était pas encore de manière
démocratisée.
Voilà, c'était les magazines de jeux vidéo qui faisaient foi. Et j'étais déjà à l'époque sur l'intérêt de payer un jeu plein pot pour en jouer que très peu d'heures. Et je commençais à m'intéresser sur des niveaux plus élevés. Et Demon's Souls. Alors j'ai plus le titre, je crois que ça a fait la une du console plus de l'époque.
C'est possible.
Et
Dark Souls, non, qui va faire la peut-être, putain, parce qu'il est Demon's Souls, il est vraiment très très niche.
C'était marqué, vous allez adorer mourir ou enfin, je m'intéresse à ça et puis pas plus parce que
peut-être Dark Souls.
Alors et je suis revenu que beaucoup plus tard. Alors oui, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on joue, on croit qu'on va fracasser tout le monde parce que le jeu dur, je le voyais pas comme ça. Hein. Et je me demande, mais.
Parenthèse, j'ai entendu dans un podcast un truc qui m'a vraiment fait mourir de rire. Un mec qui dit, si effectivement le mec il n'y connaît rien au Demon's Souls, puisqu'il a été réédité récemment sur PS5, qui connaît rien aux mécaniques des Souls en général, que ce soit Demon's Souls, Dark Souls, etc., ou Sekiro, Bloodborne, et qui voit Demon's Souls tourner sur PS5, et qui se dit, putain, il est beau ce jeu de chevalier, et qui l'achète en tant que tel, et le mec sait pas à quel point il va souffrir, c'est clair que
tu vas pas très loin.
Un mauvais moment, quoi.
Tu vas pas très loin. Alors, je suis encore novice dans ces mécaniques-là, parce que j'ai pas encore les bons réflexes.
Raconte aux gens pourquoi on se sent aussi faible dans un Souls-like. Qu'est-ce qu'ils ont changé en fait?
Ils ont changé que il y a une réelle volonté de d'aventure. On n'avance pas, on n'empile pas les combats les uns sur les autres, et puis on avance, et puis arrivé à un certain niveau de compétence, le personnage évolue. Là, ce qu'ils ont réussi à créer, c'est la punition. La punition, mais qui force le joueur en continuant. Exactement. C'est-à-dire que, à force de répéter les erreurs, on les fait plus. Et pour créer ce sentiment-là, c'est-à-dire que tout ce que l'on peut gagner en termes de, alors, c'est les pièces en or de Mario, c'est les âmes dans Demon's Souls, c'est ce qui aide à l'évolution du personnage. C'est-à-dire que si on perd tout. Donc il faut, si tu as un run d'une heure et que tu perds tout, tu te dis, faut tout, je recommence.
Tu t'en veux. C'est des jours où tu es dans la console et tu dis.
Ça peut freiner le joueur.
Alors, pour vous raconter, il s'agit de jeux qui se font dans un univers globalement d'heroic fantasy. En général, médiéval fantastique, on est dans des châteaux forts, on est un chevalier, ou bien on est un bandit, un brigand, un voleur, c'est un jeu de rôle. Personne ne vous dira rien. Vous commencez. Et vous jouez, c'est parti. Une fourchette, un bouclier, et puis en avant, charge à vous de progresser, de comprendre le monde qui vous environne. Vous allez mourir très souvent. Si vous mourrez, vous perdez toute l'expérience accumulée. Sauf si vous parvenez à revenir à l'endroit de votre mort, où vous pourrez récupérer...
sur la zone de sauvegarde.
L'expérience engrangée, mais sinon, si vous mourrez, vous perdez votre expérience. Et donc ça vous force, comme ça, ils ont remis la mécanique de mort au centre même du gameplay. Alors que tous les jeux avaient supprimé quasiment la mort pour pas que ce soit frustrant pour les joueurs, eux, ils en ont refait une mécanique qui permettait l'apprentissage, qui permettait le dépassement de soi, et qui, au fond, existait déjà depuis des jeux aussi vieux que, c'était quoi, les Ghouls and Goblins, ou je sais
pas. Ah
enfin,
oui,
tous les vieux jeux de dés, on avait l'habitude, issus du plateforme, où il était question de mourir
et dans les sources,
plein de fois et d'apprendre le jeu par cœur.
Tu as des boss qui font la taille de ta télé. Hein. Tu vois pas le personnage en entier, donc...
Et pour lesquels il faut apprendre chacun.
Je te dis, tu vas te faire piétiner.
Oui, alors.
Je ne vais jamais y arriver. Il fracasse tout le monde.
Et c'est une série qui gère très bien ça. Le gigantisme et cette impression d'être complètement submergé par la taille d'un boss, d'être submergé par un panorama, submergé par la masse des ennemis, on ne saurait jamais y arriver. Et ils sont assez géniaux, créatifs, inventifs pour toujours en fait proposer un moyen d'y arriver.
Mais ça demande un certain investissement de jeu.
Mais ils sont forts parce qu'on le voit jamais. Enfin, comment dire, 90% du temps, quand on arrive devant une situation, on se dit tout le temps, c'est pas possible, je vais pas y arriver.
C'est ça.
Et à force de persévérance, on y arrive, et on y arrive toujours. Et il y a même des guides qui sont faits là-dessus. Ça force les joueurs à interagir entre eux.
C'est là où il faut pas avoir peur.
Il faut aller voir des vidéos.
Exactement.
Se demander comment ça. Sur Game Lovers, sur la chaîne YouTube de Game Lovers, d'ailleurs, votre serviteur a fait un guide complet sur Bloodborne pour ceux qui veulent aller se tester sur ce genre de jeu.
Alors, quand on a trois enfants, c'est compliqué de s'y intéresser.
Ouais, alors,
ça, alors, c'est, ouais. Comprends totalement.
Non, c'est pour ça que je suis obligé de.
Vous avez des enfants.
C'est pour ça que quand je vois que le jeu va être long, je suis obligé de. Voilà, moi, un jeu long, c'est un par an. Je peux pas me lancer sur un truc chronophage. Trop de choses à faire, donc à un moment donné, je suis obligé de faire des choix. Et effectivement, n'ayant pas commencé les premiers, du coup, j'ai pas été happé par ça. Autant Last of Us, oui, je peux me débloquer du temps pour faire le 2. Autant il y a
sur 10-15 heures, ça se fait plus que sur 60-70
le prochain. Il y a le prochain, c'est comment ça s'appelle, avec la pandémie là, avec les rats.
Il vient de sortir.
Comment il s'appelle ce jeu? C'est
A Plague Tale.
Pas Innocence.
Innocence. Eh ben, non. Innocence, c'était le premier.
Ah, Innocence, c'était le premier. Requiem.
Eh ben, j'ai fait le premier, parce que je m'étais libéré un peu de temps, pourtant il est pas très très long, hein. Je m'étais libéré pour le premier. Je pense que je me libérerai pour le second, tu vois.
Eh bien, en parlant de se libérer, on va libérer Jonathan. Et on va vous libérer aussi, très chers auditeurs, car on parlait de temps qu'il fallait pour faire des jeux vidéo, car on n'en a pas toujours comme on
merci de des enfants. Cette émission, le temps est toujours trop court.
Mais c'est comme ça quand on parle...
Si c'était que le temps.
Quand on parle passionnément. Non, et puis on a perdu du temps, hein. On va dire la vérité, parce qu'on a dû réenregistrer une première...
Oui, parce que voilà.
Les 15 premières minutes de l'émission.
C'est ça, Radio Cavicitadelle. C'est de l'artisanat quasi professionnel.
C'est les aléas du différé.
Moi j'appelle ça enregistré dans les conditions du direct. Donc effectivement, il y a eu un léger couac.
Il y a de la casse.
Ça fait aussi le charme de la radio. C'est une radio qui est pas comme les autres. Nous on fait tout. Tout est fait main. Voilà. Tout est fait main, tout est cousu main, c'est pas made in China, on vous emmène pas un truc qui vient et tout. Non.
Et d'ailleurs, c'est tellement cousu main, François, parce que là, on le sait pas encore, mais on va finir en musique sur un morceau qui, je sais, te t'accroche comme ça au cœur, parce qu'on aurait aimé en parler.
Et mon nom vivant?
Pas pouvoir en parler. Pas et mon nom vivant.
Non.
On va se mettre un peu de The Last of Us, toi et moi, comme ça, tu vois, dans cette dernière ligne droite pour dire au revoir à nos auditeurs.
Last of Us, quand même, sur le premier, je tiens quand même à le dire.
Il veut en parler.
Les 20 premières minutes sont vraiment.
Les plus tristes
du jeu vidéo. De très haut niveau, tu t'y attends pas.
De très très haut niveau.
Tu t'y attends pas, c'est-à-dire qu'il alors, je vais pas spoiler pour les gens qui l'auraient pas fait, j'invite les gens à aller le faire. C'est pour moi parmi les 20 premières minutes les plus époustouflantes du jeu vidéo. Ouais,
tous médias confondus, je dirais même.
C'est dans mon top 3, ouais, c'est dans mon top 3 parce que je pense que le Resident Evil, le premier, aussi, la mise en route du premier Resident Evil, les 20 premières minutes. prend une grosse gifle parce qu'à l'époque on n'avait pas l'habitude de ce genre de ce genre de choses, de survival horror entre guillemets, je pense que c'est comme ça que ça
s'appelle. Oui, survival horror.
Donc du coup arriver au niveau, voire même, bon, bien sûr maintenant il y a la qualité technologique qui en plus amène un plus à l'expérience, mais véritablement Last of Us, si vous ne l'avez pas fait, allez-y, les yeux fermés.
Ou vous pourrez éventuellement le voir, le découvrir d'abord en série, hein, qui arrive bientôt sur HBO la semaine prochaine.
Exactement.
Et voilà pour The Last of Us qui s'est imposé. Que ça garde courte durée, seulement 2 épisodes. Enfin bref, c'était tout pour nous, très chers auditeurs. On répète que vous pouvez nous retrouver en podcast si jamais vous nous découvrez pour la première fois aujourd'hui, que vous voulez nous réécouter. Vous nous trouverez sur toutes les plateformes de streaming audio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, notamment à GameLovers2B. Je remercie mon François qui nous a fait le plaisir d'être avec nous.
Ben, merci à toi.
Merci à lui. Je remercie John qui est parti un petit peu précipitamment. Parentalité oblige, n'est-ce pas ?
C'est vrai.
Et je vous remercie surtout de continuer à nous écouter, vous les auditeurs. Ça nous fait chaud au cœur. Au cours de la prochaine ou de la suivante, non, ce sera peut-être la prochaine, on aura Fredo qui nous vient de Retro Arcade Game, qui viendra participer à l'émission depuis Ajaccio. Il se déplacera, il viendra jusqu'à Calvi pour y participer. Je le remercie par avance. Merci à vous tous, merci à tous, et puis on se dit à très bientôt pour la prochaine de Game Lovers. Ciao ciao.